un quart d'heure en Palestine.
La Palestine. Comment ça, la Palestine? C'est où la Palestine? Quoi? Ah, la Palestine. Ah mais on nous avait dit qu'il fallait se mobiliser pour... Vous vous souvenez de la bataille d'Alep encore en 2016? Il fallait sortir dans les rues, nous tous les Charlie là. Hein, il fallait absolument sauver un peuple qui était menacé par le méchant Bachar el-Assad et par les Russes, etc. Jusqu'au jour où finalement cette bataille a permis de libérer cette ville des mercenaires de l'impérialisme. La Palestine, non, c'est le Venezuela. Le Venezuela, il faut absolument aider le soi-disant peuple vénézuélien, c'est-à-dire les beaux quartiers, à se débarrasser de la dictature de Nicolas Maduro, qui n'arrête pas d'organiser des élections. Non. La Palestine, non, c'est l'Ukraine. Il faut soutenir les Ukrainiens contre les chars russes. Non, pas la Palestine. Non. L'Iran, il faut soutenir absolument. Il faut toujours soutenir ce que Trump, ce que Macron... Ce que Israël nous dit de soutenir, mais pour la Palestine, rien du tout. Or, tous les jours, en Palestine, l'occupation qui se poursuit, et rappelons-le, elle a été dénoncée des milliers de fois, y compris par l'ONU, occupation illégale, ça, il ne faut pas en parler. Tous les jours, en Palestine, des gens sont assassinés, des gens sont emprisonnés, des gens sont arrêtés, et ça justifie peut-être que sur une antenne comme celle de Radio Campus, qui est une antenne libre, et qui justement est là pour ça, et non pas pour relayer la propagande de masse, hein, ça, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que nous, ça justifie qu'on fasse ce quart d'heure en Palestine. Ce soir, nous avons dans les studios trois camarades. Nous avons Mireille et Geneviève, deux militantes de l'association France-Palestine Solidarité du Nord-Pas-de-Calais, et nous avons avec nous Aïcham Dalal, qui nous vient... Tout droit, peut-être avec des zigzags, je ne sais pas, hein, parce que ce n'est pas forcément évident de voyager, mais qui nous vient tout droit de Tulkarem en Palestine. D'abord, bonsoir Aïcha.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous Geneviève et Mireille.
Bonsoir Sam.
Alors, l'AFPS organise un rassemblement, pas tout seul, je ne pense pas, pas tout seul, par rapport à la question des prisonniers, Mireille, parce que on l'a pas dit, mais enfin, je sais, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui savent pas encore, mais il y a une jeune fille de 16 ans qui s'est fait arrêter il y a pas longtemps parce que les soldats israéliens ont pénétré chez elle, ont tout cassé, ont arrêté des membres de sa famille, ont tué d'autres membres de sa famille, ont blessé d'autres, etc. Et elle a osé mettre une gifle à un soldat. C'est bien ça, c'est Haït Tamimi, hein.
Exactement. Donc l'AFPS Nord-Pas-de-Calais appelle à un rassemblement ce samedi à 15h, Grand Place, pour exiger la libération de cette jeune fille de 16 ans, mais aussi la libération des 6100 et plus prisonniers politiques palestiniens qui continuent à résister dans les geôles de l'occupant israélien, et la libération en particulier également de notre compatriote franco-palestinien, l'avocat Salah Amouri, mais également notre camarade Khalida Jalal, qui est députée palestinienne, militante féministe, et qui est encore une fois condamnée à la détention administrative, 6 mois renouvelables à l'infini, comme bien d'autres prisonniers. Donc effectivement, comme tu le précisais, c'est une manifestation à l'appel de l'FPS, mais aussi et toujours en commun avec la communauté palestinienne du Nord et à l'appel aussi d'autres organisations syndicales, politiques et associatives.
C'est samedi donc
15h ce samedi ici, oui, donc le 20.
Ouais, à quel endroit? À Lille.
À Grand Place, à Lille, voilà.
Là où il y a la grande roue, le Furet du Nord, la Voie du Nord, tout ça, c'est ça. C'est bien ça, la Grand
voilà,
Place.
Voilà, oui. La voie de... Oui. Moi, j'appelle la voie de son maître.
Tu parles de 6000 prisonniers palestiniens. Je crois que si on fait le cumul, en vérité, chaque famille palestinienne, enfin au total, c'est un outil pour l'État sioniste d'emprisonner les gens, notamment avec ce qu'on appelle la détention administrative. C'est-à-dire, il y a pas d'objet, il y a pas de raison, hein. Je veux dire,
il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jugement.
Oui, c'est un État colonial.
Voilà, c'est ce dont est victime également Salah Amouri, donc qui est français et je dirais même que français puisqu'il est résident. Il n'a pas la nationalité ni israélienne ni palestinienne. Il est résident de Jérusalem et donc il est aussi en détention questions administratives. Je précise, puisque tu l'indiques, que effectivement, parmi toutes les familles palestiniennes ont été touchées par l'emprisonnement, que ce soit un frère, une sœur, un père, une mère, un oncle, etc. Et que si on reportait à la population française, ça ferait depuis 1967, ça ferait plus de 10 millions de Français qui seraient passés par les prisons ou qui seraient en prison. Je rappelle ce rassemblement de samedi qui est extrêmement important, qui n'est pas le premier, malheureusement, qui ne sera pas le dernier. Parce que
BHL n'y appelle pas. Hein.
C'est comme tu le disais, c'est dans la stratégie de l'État sioniste. Hein. L'emprisonnement, c'est aussi pour faire taire les résistants et pour faire pression sur les enfants, puisqu'aujourd'hui, il y a un enfant de 11 ans qui s'est fait arrêter.
C'était hier, c'est ça, hein, Geneviève, tu peux
hier, en... pardon. C'est 7 oui, enfants mais... de 11 à 17 ans.
Oui, mais il y en a un de 11 ans.
Oui, un de 11 ans, ouais. Qui sont arrêtés pour avoir jeté des pierres et qui sont accusés de terrorisme et qui sont en prison militaire de Hofer.
Je voudrais revenir deux minutes sur l'arrestation de il y a maintenant trois semaines, quasiment un mois, je pense, de Ahed Tamimi, donc qui est considérée par Israël comme vraiment un danger. Toute la famille est considérée comme un danger, hein, parce que ils arrivent à populariser finalement la lutte palestinienne, et que en lisant la presse israélienne notamment, on voit que ce qui a vraiment motivé son arrestation, c'est le fait qu'elle ait donné une gifle à un soldat israélien qui est surarmé, etc. Que c'est vraiment une atteinte à l'image finalement du colon, quoi, hein, de l'occupant. Hein. C'est intéressant. Hein. Moi, je me souviens
J'ai lu, je ne sais plus où aujourd'hui, qu'elle y avait flanqué une gifle en Mondiovision.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et
ouais.
Ça fait mal, effectivement.
Oui, non, surtout, je pense que c'est le décalage qu'il y a entre ces militaires, parce qu'elle est apparue dans plusieurs vidéos, sur plusieurs photos, où effectivement, toute jeune qu'elle était, 6-7 ans déjà, elle levait le poing à la face du militaire en face qui faisait quasiment 1m90 de mètre, surarmé. C'est le visage de cette jeunesse de Palestine aussi.
Ce qui fait peur, c'est ça. C'est l'aspect symbolique d'une jeune fille blonde en plus, avec les yeux clairs.
Entre tous les stéréotypes et les clichés de la femme palestinienne. Ouais.
Et c'est parfait. Et on a raison, les Palestiniens ont raison d'ailleurs. Si d'ailleurs c'est étudié par la famille, etc., ils ont tout à fait raison.
Ils le revendiquent.
Face, ils ne se gênent pas pour faire un petit peu de propagande de temps à autre pour l'État d'Israël. Ça arrive ça aussi des fois. Hein. Non, pourquoi tu rigoles? Bah oui. On parle des prisonniers. Aïcha Amdalal, qui vient de Tul Karem, au nord de Naplouse. Est-ce que cette question des prisonniers, personnellement, ça te parle? Est-ce que dans ton village, puisque je crois que tu es dans un petit village autour de Tul Karem, est-ce que dans ton village, là où tu es, est-ce que cette question de la prison, de l'emprisonnement par l'occupant, c'est quelque chose qui a une résonance pour toi dans ta vraie vie?
Récemment, ils ont pris plusieurs jeunes hommes de mon village. Et c'était très touchant. Il y avait quelqu'un qui vient de ma famille. Et c'était quelque chose de très touchant pour nous. Et en plus, la question de Ahed Tamimi et les autres prisonniers, et bon, dans les derniers événements après la déclaration de Trump, pour moi, j'étais jamais touchée par la prison, mais ça me touche beaucoup. Et normalement, j'écris des choses pour les prisonniers, parce que j'essaie de les soutenir, faire quelque chose. Je m'en sens qu'il y a beaucoup de pression, on peut pas faire quelque chose. Alors, j'écris en arabe et c'est la façon dont je peux m'exprimer et dire quelque chose pour le monde.
D'ailleurs, la prison, elle fait partie maintenant c'est presque le cœur de la résistance palestinienne. Hein. On sait qu'en prison, tu parlais de Khalida Jarrar, donc une militante historique du FPLP, où il y a aussi Ahmed Saadat, mais il y a aussi, bien sûr, la figure principale, Marwan Barghouti. Et puis, ce qu'on a comme retour des prisons de l'occupant, c'est que, y compris par Salah Hamouri, qui nous en avait parlé sur cette antenne, Salah Hamouri qui est aujourd'hui à nouveau en prison. Lyonnais qui nous parlait de ça sur cette antenne. Il nous disait que, parce qu'il avait été emprisonné une première fois, bien sûr, il nous disait que c'était un lieu de formation politique, où justement l'unité palestinienne se faisait à la limite mieux que dehors, quoi. C'est à toi que je parle, Mireille.
Oui, pardon. oui, tout à fait. C'est un lieu de formation politique extrêmement important. D'abord, ça soude les prisonniers, ça occupe intelligemment leur journée et ça brise leur isolement. Ça les forme aussi à cette forme de résistance, parce que le but, comme je disais tout à l'heure, de l'emprisonnement, c'est aussi de casser la résistance du peuple palestinien. C'est une stratégie qui est née avec le sionisme, hein, avec l'État d'Israël aussi. Et Salah l'a bien exprimé. La formation se fait, y compris avec l'étude d'ouvrages. Il nous disait par exemple qu'ils avaient étudié les ouvrages de Marx, de Lénine, d'Engels, des grands résistants aussi, Georges Abache, des militants politiques aussi palestiniens, arabes. Le peuple palestinien dans son ensemble, hein, donne une importance extraordinaire à l'éducation, à l'enseignement. Je pense que ça, c'est aussi une conséquence aussi du fait, voilà, que la prison pour les Palestiniens, c'est aussi un lieu de formation, en ce sens que pour eux, l'histoire, la géographie, la science, toutes les disciplines sont extrêmement importantes. Et voilà, ça leur permet aussi de sortir de cet univers carcéral. Et donc, je termine justement aussi, ce qui n'a rien à voir avec la formation, mais ce qui permet aussi de briser leur isolement, c'est le parrainage des prisonniers, et c'est donc la possibilité de pouvoir leur écrire. Donc pour les adresses des prisons, d'ailleurs pour Salah comme pour Aed et les autres, vous pouvez retrouver sur le site de la FPS nationale les adresses où on peut leur écrire, tout en sachant que on n'a jamais la certitude que les courriers leur arrivent bien, ouais. Mais en tout cas on sait aussi que ça arrive.
Mais on sait en tout cas que les autorités de l'occupant, eux, reçoivent tout ça, et donc sentent une pression, et c'est comme ça que ça peut marcher, hein, c'est comme ça que ça marche. Aïcha, 22 ans, oui. Quand on parle d'occupation, nous ici, on a déjà été occupés en France, hein, mais c'était il y a fort longtemps, et même moi, j'étais pas né. Alors Mireille et Geneviève, encore moins. Qu'est-ce que c'est la réalité de l'occupation? Si tu remontes dans tes souvenirs, toi, dans ton enfance déjà, et jusqu'à aujourd'hui, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça signifie?
Okay. Alors moi, j'ai commencé à comprendre l'occupation à partir de mon premier voyage en France, parce que c'était la première fois que je pars de la Palestine. Et à partir de ce moment-là, il y avait des discussions, il y avait l'expérience de passer les checkpoints, il y avait tout ça. J'ai commencé à analyser les situations, comment ici je peux prendre le transport librement, sans checkpoint, sans avoir peur. J'ai commencé à réfléchir. Ici, il y a des fois que je me sens peur quand je parle, quand je suis dans le moyen de transport. Mais après, je me suis dit, calme-toi, on n'est pas en Palestine. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que l'occupation, c'est la pression, c'est la prison, et elle prend notre vie. Et en pensant qu'on est en Palestine, on pense que
c'est normal.
Mais après, quand on est rebelle, on refuse la situation, c'est à partir de ça qu'on commence à comprendre, à comparer entre la vie des peuples normaux et notre vie. Et je me souviens, par exemple, à l'enfance, quand si quelqu'un veut, pour nous calmer, nous les enfants et tout ça, ils vont dire, les soldats viennent, attention. Alors, je me souviens comment j'imagine, il passe juste au-dessus de ma chambre ou quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est maintenant que j'ai commencé à analyser tout ça. Et quand j'ai visité la mer pour la première fois, c'était quand j'avais 19 ans. Et après, j'ai compris que j'ai le droit de le visiter à n'importe quel moment. Quand j'étais en France, j'ai visité la mer. et c'était accessible pour tout le monde. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, les Israéliens? Comment on vit, nous, là-bas? Et après, la première fois, c'était la première fois que je vois la mer, quand j'avais 19 ans. C'était la première fois que je dépasse le mur de séparation. Et à partir de ça, je me suis dit, maintenant, je comprends comment je sentais avant, que la mer, c'est un rêve, et c'est quelque chose d'impossible à obtenir et tout ça. Mais ça existe, c'est juste à côté de nous, c'est une heure de mon village, mais moi ça a pris 3 heures pour y aller, et ça a pris un mois pour obtenir une permission pour y aller. Et l'occupation, c'est à chaque instant dans notre vie. On sort de la maison, par exemple, pour aller à l'université, on pense peut-être qu'on ne revient pas. Et par exemple, on pense à nos frères quand ils vont partir tôt le matin, mon père... Et je pense peut-être qu'ils vont être pris par les Israéliens pour aller à la prison, comme la prison administrative. Et c'est comme ça, c'est toutes les petits trucs dans notre vie, les petites choses, ça existe. C'est la pression, tout le temps.
Mais est-ce que vous avez les moyens de vous l'expliquer? Parce que là, tu dis que quelque part, c'était presque normal. Et on se dit qu'après 1948, 70 ans d'occupation, oui, quasiment... génération après génération, est-ce que les jeunes palestiniens comme toi acceptent cette situation, ou comme tu viens de le dire, trouvent ça anormal et se rebellent?
Normalement, les gens à mon âge, on est à l'âge de 16, 18, 20 ans, on commence, c'est pourquoi il y a beaucoup de martyrs, c'est pourquoi, parce qu'ils partent pour jeter des pierres, pour dire quelque chose. Mais vraiment, s'il n'y a pas ces situations-là, de jeter les pierres, les conflits et tout ça, il vit une vie normale. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, on bouge. Mais après, on se calme. Et c'est comme ça que, pour moi, à partir de mes analyses, on voit la vie, on pense qu'on vit une vie normale, mais la vie normale, c'est l'occupation, avec l'existence de l'occupation. C'est ça. C'est ça pour nous. Et c'est comme ça qu'on part de la Palestine et on va à la vie d'autres pays sans occupation. On va commencer à comparer, à dire non, c'est mieux d'être ici, c'est mieux de sortir, c'est mieux. On n'accepte pas la situation, nous voulons faire quelque chose.
Mais ça doit être justement le choc dont tu parles, c'est le choc entre cette situation d'occupation qui est presque banale, ou banalisé en tout cas, parce que c'est la vie, parce que c'est la vraie vie des gens là-bas. Et quand tu viens ici, c'est presque ici que tu es choqué, parce que tu peux circuler librement, etc. Comment tu vois la France là aujourd'hui? Et notamment la France par rapport à la Palestine, parce que quand tu dis que tu es palestinienne aux gens que tu croises dans le métro ou ailleurs.
Ok. Premièrement, je sais que c'est pas facile de dire que je suis palestinienne. Parce que, je ne sais pas, j'ai peur aussi de rencontrer des sionistes. Et...
non, t'inquiète pas, c'est que à la télé. Ils ne sont que dans la télé. En vrai, il n'y en a pas.
Mais maintenant, je suis entourée des gens qui soutiennent la Palestine. Mais là, en 2016, quand je suis venue en France, j'étais chez une famille d'accueil, et en parlant de la Palestine, ils pensaient que la Palestine, c'est un pays qui existe à côté d'Israël. Il y a des conflits religieux. Mm-hmm. Et moi, j'étais choquée qu'ils ne savent pas que la vraie situation. J'ai commencé à expliquer que non, c'était toute la Palestine, ils ont pris une partie de notre terre, ils essayent de le prendre en totalité. Et j'avais une amie chinoise avec moi aussi dans la
famille.
Oui, dans la famille. Et elle ne savait pas c'est où la Palestine, c'est quoi la Palestine. Elle m'a dit désolée. Et c'était très choquant pour moi, parce qu'on ne voit pas que le soutien. On voit le petit parti de soutien. Mais normalement, c'est presque rien.
Et dans ton village? Maintenant, on va retourner les choses. Mais est-ce que dans ton village, tu connais la Chine? Est-ce que dans ton village, vous avez une vision de... parce que vous êtes au cœur de l'actualité finalement quand même, au cœur de des conflits du monde. Hein, la Syrie est juste à côté, l'Iran, l'Irak, c'est pas loin, le Liban, voilà. Et puis on sait, nous ici en France, que Israël c'est une tête de pont de l'impérialisme occidental. C'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis qui viennent pour essayer de maintenir finalement leurs propres intérêts, notamment pétroliers. Est-ce que cette génération, la tienne, est-ce que vous avez, je vais le dire de manière très, très claire, est-ce que vous avez encore, comme vos parents, cette culture politique qui faisait la force de la résistance palestinienne ?
Non. Je pense
pas. La réponse est directe.
Non. Non. Et c'est pourquoi... On essaye d'ignorer ça, nous, la nouvelle génération. Nos parents, ils essayent de nous éloigner de ça. Mais ils essayent de nous... C'est ça, c'est d'essayer de vivre. Essayer de vivre. Et ils ont peur pour nous parce que nous voulons faire quelque chose. C'est toujours la prison ou la mort. C'est toujours ça. Et on est enfermés. Il n'y a pas de soutien. On ne peut pas faire quelque chose. C'est tout observé, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas beaucoup parlé de la politique dans ma famille, mais quand je suis partie à l'université, c'est moi qui voulais le chercher. Et quand j'ai cherché, j'ai cherché beaucoup, et j'ai commencé à comprendre les choses. Et quand je suis partie en France, en parlant, en prenant des discussions et tout ça, j'ai commencé à comprendre les choses. Mais si je compare avec mon entourage, mes amis, on ne savait rien presque, mais c'est nous qui veulent développer ça, on a fait des discussions, on a parlé, on a cherché et tout ça. Mais normalement, je ne sais pas, c'est pas comme avant, non.
Là où tu habites, Tulkarem, enfin un petit village à Tulkarem, est-ce que quand tu sors de ta maison, est-ce que l'occupation, tu la vois ? Est-ce que, parce que je suis allé en Palestine aussi et j'étais frappé par la géographie, c'est-à-dire que on voyait toujours une colonie quelque part. Est-ce qu'il y a des colons
Oui, il y a une colonie juste à côté de nous, juste à côté.
Vas-y, raconte.
C'est calme entre nous et cette colonie, mais pour moi, en regardant ça, c'est pas normal, parce qu'ils ont pris la terre de mon grand-père et ils ont construit des maisons. Moi, je suis interdite d'y aller et d'aller à la côte des Olives. Et la mer, c'est juste une heure de notre village. Mais quand j'étais petite, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose qui existe juste à côté. Et ça veut dire rien pour moi. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'est pas normal.
Ils viennent d'où, ces gens de cette colonie?
Je sais pas. Je sais pas, partout dans le monde.
Partout dans le monde, ouais. Tu sais pas, c'est des Russes, des Polonais, des Argentins, des Français, peut-être, je sais pas.
Parce que, par exemple, moi, mon père et ma mère, ils n'ont jamais travaillé dans les territoires 48, entre guillemets, Israël. Et comme ça, on n'a pas...
Aucune connaissance, de qui ils sont.
Non, mais il y a des gens qui, dans mon village, qui travaillent dans des colonies, dans cette colonie israélienne. Et je pense qu'ils savent beaucoup de choses. Il y a des relations et tout ça, mais...
Qu'est-ce qu'ils font comme travail dans ces colonies?
Ouvriers, ils construisent des maisons. Et ils travaillent dans l'agriculture, c'est ça.
Et c'est pas mal vu, le fait qu'il y ait des gens, ils doivent manger.
Il n'y a pas de vie, ouais. C'est la seule solution. Mais qu'un jour, Inch'Allah, on va les prendre, on va prendre les maisons qu'on a construites.
Pour ceux qui suivent l'actualité, mais il faut aller la chercher encore une fois, hein, parce qu'évidemment, ça ne fait pas la une du 20h, mais la situation que décrit Aïcha, et qui existe de longue date, et elle le dit d'ailleurs, elle en témoigne très bien, c'est presque naturel, tellement c'est ancien. On voit qu'il y a quand même en ce moment, peut-être, après une période d'accalmie, entre guillemets, dont elle parle très bien aussi, hein. C'est-à-dire que les parents veulent que leurs enfants puissent vivre, tout simplement survivre et pas se mêler de tout ça. On voit quand même qu'il y a des intifadas, on n'y est pas, mais en tout cas, Israël utilise beaucoup les gaz pour disperser tous ces gens. Et on avait déjà eu, je ne sais plus qui, sur cette antenne, quelqu'un qui nous disait, qui insistait là-dessus. C'était dans un camp à Bethléem, je pense, où c'était régulièrement des gaz qui étaient particulièrement malodorants. Mais on parle maintenant de gaz empoisonnés. Je ne sais pas si tu peux confirmer ça, mais l'utilisation de ces gaz lacrymogènes empoisonnés, etc.
J'ai pas d'éléments précis sur
alors,
ces nouvelles
techniques. Alors répondez à ma question générale sur la situation de est-ce que la jeunesse est en train de, on parlait quand même de jeunes qui lancent des pierres, etc.
Ouais. Je ne pourrais parler des gaz. J'en ai reçu en 2004 et j'en ai reçu en 2016. Je peux dire que c'était pas les mêmes. Hein. En 2016, ça fait très 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 mal. Donc je pense qu'effectivement, il y a des éléments supplémentaires dans les gaz. Et de plus, ils n'ont pas besoin d'être très nombreux pour lancer les grenades, parce qu'au-dessus des jeeps, il y a des magasins à grenades. Et donc il y a les grenades qui partent à l'horizontale, il y en a 10, il suffit d'appuyer sur un bouton, elles partent toutes les 10. Au-dessus, à 45 degrés, il y en a 10. Et à peu près 80 degrés, il y en a 10. Donc tu as 30 grenades lacrymogènes qui partent en appuyant seulement sur un bouton. Et ça fait vraiment très très mal.
C'est beau le progrès.
Mmh. Oui, je pense que, oui, peut-être juste pour compléter, je pense qu'ils sont vraiment à la pointe, les Israéliens sont à la pointe de la technologie pour les destructions, pour les crimes. On l'a vu à Gaza, c'est un champ d'expérimentation, Gaza. Et le peuple palestinien est le cobaye aussi de ces expérimentations. Et la France prend exemple, non seulement sur ses expérimentations, mais aussi pour tout ce qui est formation, encadrement de la police, pour mater un peu nos jeunes dans les banlieues.
Bah oui, qui sont un petit peu quelque part des Palestiniens.
Bah oui, des gifleurs aussi.
Aïcha, il nous reste peu de temps, je viens de le voir là. D'abord, c'est ton témoignage, ce que tu viens de dire est très précieux, pour, je pense, pour nos auditeurs. Ça nous rappelle la réalité palestinienne. Mais là, aujourd'hui, tu es en France et tu as des projets. Tu as un projet double, à la fois un projet cinématographique, mais aussi avec une dimension féministe. Est-ce que tu peux nous exposer ça ?
Alors, ce projet, c'est pour résister en Palestine. Ça, c'est ma propre chemin et c'est comme ça que je peux défendre mon pays. Et moi et mon ami, nous avons l'idée de créer monter une association cinéma et société. Ça veut dire créer des courts-métrages sur des problèmes dans la société palestinienne et faire à côté des activités liées à ce thème. La première étape, c'est de faire un court-métrage sur les sports féminines en Palestine pour les femmes villageoises. Ça c'est pour développer la situation, pour améliorer la situation de femmes, pour les encourager à faire du sport. Et à travers le court métrage, on va faire passer un message aux Palestiniens, en mettant au monde, pour montrer aussi la pression de l'occupation sur nous les femmes dans notre vie. Et on va aussi faire, nous espérons aussi monter une équipe sportive à côté pour appliquer notre message qui est dans nos courts-métrages. Alors, je suis ici pour parler de notre projet, pour échanger avec les femmes françaises ici et pour aussi trouver un stage dans le domaine du cinéma et pour améliorer notre compétence comment filmer, comment commencer, écrire le scénario, tout ça. On cherche ça et nous espérons, Inch'Allah, l'obtenir.
Ah ben, s'il y a des gens qui nous écoutent, et je pense qu'il y a des gens, j'en connais, t'en connais aussi,
ah
hein,
oui,
qui font un petit peu de cinéma, eh bien, ils peuvent recruter Aed comme... Aïcha, pardon. Elle me hante. Ils peuvent recruter Aïcha en nous écrivant à hdmcampus@yahoo.fr. hdmcampus@yahoo.fr. Le temps passe vite, il est temps de retrouver la semaine à Cuba. Rappel, samedi, rassemblement... 15h, c'est 15 ça
15h, hein. Grand Place, ouais, pour la libération
de tous les prisonniers palestiniens.
De tous les prisonniers politiques palestiniens.
Merci Geneviève, merci Mireille, merci Aïcha.
À
bientôt,
Inch'Allah. يا ابني صار لي زمان صار صار لي عمر عم بحلم يا ابني وبقطف قهر صار لي زمان ناطرة ترجع بيتك وأحضنك مثل أيام زمان قالوا اسمك سجين قلت لهم اسمه البطل اسمه عراس الجبل بيشعل فينا النار كان الرفاق مثل وعد الأرض ما خذل يا سجن يا معتقل لابد ما تنهار صار لي زمان ما شفتك يا ابني صار لي زمان صار لي زمان ما شفتك آه آه صار لي زمان صار لي عمر عم بحلم يا ابني وبقطف قهر صار لي زمان ناطرة ترجع بيتك وأحضنك مثل أيام زمان